Chaque jeudi, vous le savez, nous demandons à un écrivain ou un universitaire de venir apporter son point de vue sur l'auteur dont nous parlons dans l'émission toute la semaine. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Stéphanie Genand, maître de conférence HDR en littérature du 18e à l'université de Rouen. 18e siècle, ce n'est pas tellement la temporalité de The Wire ou des séries de David et de Simon, et pourtant il y a quelque chose, Stéphanie Genand, de commun. Vous avez intitulé votre chronique d'aujourd'hui « La langue imaginaire des séries ».
Oui, bonjour Mathieu, je repartirai peut-être de ce qui a été dit aussi dans la première partie de cette émission, où la question consistait à savoir si les séries façonnaient d'une certaine manière notre imaginaire, par exemple. On peut considérer la question aussi à l'inverse et envisager que des auteurs de fiction ont pensé l'imaginaire et qu'ensuite les séries vont dérouler des codes, des esthétiques qui ont été auparavant pensées. Je pense que le 18e, de ce point de vue-là, est une époque intéressante. Des gens comme Diderot ont... c'est pour ça que quand on est 18e-iste, on aime beaucoup les séries, encore plus que les autres. Ah bon, on y est plus sensible à leur ressort. Diderot, par exemple, a pensé aux manières les plus efficaces de frapper le spectateur. C'est donc une époque qui va réfléchir à l'effet sur le spectateur. Comment bouleverser le plus possible le public ? Ce qui interroge pour nous, la question aussi dont vous avez parlé tout à l'heure, quel est notre plaisir face à la série ? Qu'est-ce qui nous touche ? Et il se trouve que le 18e, et on le sait aujourd'hui, a montré qu'il y avait une disjonction, ça a été dit tout à l'heure, entre le plaisir du spectateur et la morale. C'est-à-dire que ce que nous aimons et ce qui nous bouleverse dans une série, ce n'est pas que le méchant soit puni et le vertueux récompensé, mais c'est le plus souvent l'inverse, c'est-à-dire que le juste soit supplicié et que les méchants triomphent. De ce point de vue-là, The Wire est une série totalement héritée de ce que le 18e a pensé, c'est-à-dire qu'il faut que les gentils souffrent d'un bout à l'autre, ce qui nous met, nous, comme spectateurs, dans une situation très paradoxale, mais que là encore le 18e a pensé, une situation de jouissance totale et une situation de cruauté absolue.
Le 18e l'a pensé parce que c'est le siècle qui invente un petit peu aussi le roman, mais au 19e, au 20e, c'est un peu la même chose aussi. Est-ce que c'est pas tout simplement justement le genre du récit qui crée ce que vous dites, Stéphanie Genand ?
Alors non, je pense qu'il y a ça, vous avez raison, mais il y a aussi, pour les 18e-istes, la volonté d'aller comprendre la part de cruauté que nous avons en termes moral, en termes philosophiques, en termes anthropologiques, mais du coup aussi en termes esthétiques. Comme spectateurs de théâtre, de cinéma, aujourd'hui de séries, comme lecteurs de romans, nous aimons ce qui n'est pas moral. Nous aimons les justes suppliciés. Nous aimons aujourd'hui The Wire pour y voir des policiers vertueux, purs, ce héros McNulty qui a des principes, se heurter systématiquement à la noirceur du monde. Alors, on peut considérer que c'est effectivement pessimiste, ça l'est, mais en termes d'effet sur le spectateur, ça joue sur nos ressorts les plus obscurs. Et c'est ça que je trouve, les séries renouent avec cet imaginaire-là.
Pour vous, la série, c'est un genre qui est très littéraire, qui est héritier à la fois du théâtre et qui est un genre qui développe un langage à proprement parler littéraire.
Oui, je pense pas du tout que la série du coup risque d'enterrer la fiction littéraire. Je pense qu'au contraire, elle la fait vivre en reprenant ses ressorts. C'est particulièrement le cas dans The Wire, qui est une série entièrement théâtrale. Je pense par exemple à ce qui surprend aussi le spectateur, à l'importance, on en a parlé, du langage, et au fait qu'une série normale nous aurait montré des actions et des meurtres. Dans The Wire, on nous montre ce qu'on dit des meurtres, où on se situe toujours après le meurtre. Je pense à la scène affreuse dans la première saison de l'exécution de l'amant d'Omar. On ne voit pas cette scène, on voit juste son cadavre, ce qui du coup nous met en position bien plus forte esthétiquement d'imaginer les supplices. Autrement dit, c'est un ressort, là encore, fictionnel. Au 18e, Diderot dit que si vous voulez montrer, par exemple, un tableau, une scène de décapitation dans un tableau, type Judith et Holofernes, il faut montrer la scène juste après, et non pas pendant, ce que beaucoup de ces séries feraient. Donc l'après-meurtre est plus fort que le pendant, que l'action.
Que diriez-vous, Stéphanie Genand, concernant l'imaginaire de cette série, The Wire, que vous qualifiez à la fois d'urbaine, de masculine et de sans action ?
Alors moi, je pensais tout à l'heure en vous écoutant que moi, comme spectatrice, j'aime pas du tout le côté réaliste. Enfin, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est pas du tout ce que je recherche. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir l'imaginaire, parce que de toute façon, le réel, on l'atteint jamais. Alors, quel est l'univers qu'a le scénariste lorsqu'il écrit cette série The Wire? On voit que c'est un univers très urbain. Ça m'étonnait parce qu'on voit dans la deuxième saison pourtant que Baltimore est un port. Il y a tout l'univers des dockers qui est mobilisé, mais il ne fait rien de l'eau. Mmh. On reste dans un univers très urbain, très dur, très minéral, très il y a quelque chose de très froid, de très violent.
C'est que les personnages ne vont pas tellement en balade.
Non, il n'y a aucune ouverture. Il y a quelque chose de très fermé, aussi bien d'ailleurs par le fait d'écouter. On passe d'un espace fermé à l'autre. C'est intéressant, ça crée tout de suite aussi le paysage imaginaire de la série. On va être dans des lieux fermés. On ne voit pas grand-chose de Baltimore. Mmh. En réalité, on n'en voit que des... Il y a des effets de zoom comme ça sur certaines parties de la ville, mais du coup, il y a une espèce de mosaïque du paysage qui interdit d'en avoir vraiment une vision panoramique. Il y a du coup quelque chose d'un peu oppressant dans ce rapport au paysage qui du coup nous plonge, nous, spectateurs, dans une espèce de... On suit vraiment la caméra, on essaye de comprendre aussi ce qu'est la ville. Et on voit bien que les héros eux-mêmes rentrent dans un monde tentaculaire, n'arrivent pas non plus à comprendre, à relier, ça a été dit tout à l'heure, toutes les parties de cette ville, comme tous les morceaux d'enquête, comme les petits post-it à la fin de chaque saison, hein, qu'ils assemblent sur les tableaux pour essayer de tout lier. C'est la même chose pour nous, spectateurs. On n'arrive pas forcément à se représenter Baltimore, alors que d'autres séries choisissent des visions beaucoup plus panoramiques du paysage. On parlait tout à l'heure d'House of Cards. Hein, là, tout de suite, on campe un paysage politique, où je pense, à l'inverse, à une autre série récente qui est passée sur Arte, à la série de Jane Campion, mm-hmm. Top of the Lake, dont
qui pourrait être l'actualité que vous pourriez nous présenter justement aujourd'hui, Stéphanie.
En tout cas, oui, qui est une série que j'ai beaucoup aimée, qui est passée récemment et qui fonctionne sur un monde imaginaire et une langue imaginaire pour le coup totalement différente de celle de David Simon. Jane Campion aime les paysages.
Qui vient du cinéma aussi.
Elle vient, c'est vrai, du cinéma, mais beaucoup de réalisateurs ou autrices de cinéma aujourd'hui font des séries. Ils aiment pouvoir se déployer, trouver une langue beaucoup plus ample en termes de récit, de chronologie, de psychologie des personnages. Et Jane Campion, elle aime les paysages. Et les paysages ouverts, elle aime la mer, on le sait. On a tous le souvenir de cette grande scène de la leçon de piano, mm-hmm. hein, du piano.
Le piano sur la plage.
Voilà, piano, puis ensuite dans l'eau, etc. Donc là, Top of the Lake joue aussi sur cet imaginaire de l'eau et de la féminité. Pour le coup, c'est une série centrée, les deux saisons, sur la maternité. Et Jane Campion choisit aussi d'associer un paysage imaginaire, l'eau, en l'occurrence, au corps féminin. Bien sûr, on voit la symbolique de la maternité, qui traverse son générique aussi, d'ailleurs, de manière très explicite. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'au-delà de ce que dit l'histoire, il y a la langue qu'elle choisit pour le dire.
Merci beaucoup Stéphanie Genant pour à la fois ce conseil et puis cette analyse de The Wire. À très bientôt.
Merci Mathieu.